Okapi reçoit en exclusivité ce samedi à 10h05 heure de Kinshasa et dimanche à 11h05 dans le magazine Grande Interview la présidente de l'Assemblée nationale. Au menu, l'autorisation de la prorogation de l'état d'urgence par le Parlement, le premier anniversaire de l'actuel bureau de l'Assemblée, la lutte contre la maladie à coronavirus. Jeanine Mabunda face à Michel Kifindangoy dans un entretien à bâton rompu à suivre en exclusivité ce samedi à 10h05 et dimanche à 11h05 sur Radio Okapi, la fréquence de la paix.
Radio Okapi. Grande interview.
L'Assemblée nationale et le Sénat ont voté séparément jeudi dernier la proposition de loi portant prorogation de l'état d'urgence sanitaire décrété par le chef de l'État. C'était au cours d'une plénière tenue dans un format réduit, avec 66 députés seulement à la Chambre basse. L'autorisation de la prorogation de l'état d'urgence par le Parlement coïncide avec le premier anniversaire de l'actuel bureau de l'Assemblée. Pour en parler, Grande Interview reçoit dans ses numéros la présidente de l'Assemblée nationale. Avec Jeanine Mabunda, nous parlerons successivement des actions menées par l'Assemblée nationale, de la lutte contre le coronavirus, mais aussi du fonctionnement du Parlement pendant cette période de confinement. Produite avec le concours de Kéline Kouté sous la supervision de Jean-Marc Matouaki, cette émission vous est présentée par Michel Kifindangoy. Grande Interview, c'est parti! Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs de Radio Okapi, bienvenue à Grande Interview. Nous recevons dans ce numéro la présidente de l'Assemblée nationale, Jeanine Mabunda. Avec elle, nous dressons un bilan d'une année du bureau de l'Assemblée nationale, mais aussi de la lutte contre le coronavirus et du fonctionnement du Parlement durant cette période de confinement. Madame Jeanine Mabunda, bonjour.
Bonjour.
Il y a pratiquement une année que vous êtes à la tête de l'Assemblée nationale et votre élection avait suscité beaucoup d'espoir de la population, surtout en ce qui concerne l'amélioration du social des Congolais. Quelle approche avez-vous mise en place pour que le Parlement soit beaucoup plus proche de la population?
Bon, je crois que l'espoir, ça suscite pour le social des Congolais. Le rôle du Parlement, d'abord, c'est un rôle de production de lois et c'est un rôle de contrôle parlementaire. Donc je voudrais que ce soit assez clair pour ne pas qu'il y ait de confusion. Le social des Congolais, c'est les mesures que le gouvernement prend, c'est les lois éventuelles qu'il nous propose pour examen, de façon à ce que les préoccupations, les besoins de base des Congolais soient adressés. Et donc chacun doit jouer son rôle par rapport à ça. Cela étant, si vous voulez parler de la sensibilité que nous avons comme députés d'être plus proche de nos électeurs, eh bien, je crois que vous vous souvenez que nous avions dit dans la proximité, à l'écoute du peuple. Et ce n'était pas un slogan chez nous, parce que dans notre façon d'agir sous cette nouvelle législature, nous avons quand même innové, notamment en invitant au Parlement, en faisant part du Parlement une maison seulement des politiciens. On n'a plus appelé ça le palais du peuple, mais la maison du peuple, et ce n'est pas que limité aux politiciens qui sont députés. Nous avons plusieurs fois invité des groupes socio-professionnels de la vie de tous les jours, les gens qu'on dit du bas et pas les gens du haut, que ce soit des associations d'infirmières, des associations de taximènes, des groupes d'élèves ou le docteur Mouyembe notamment pour tout ce qui concerne la vie et les préoccupations quotidiennes des Congolais. Donc c'est comme ça qu'on est dans la proximité. À côté de ça aussi, que ce soit moi-même, les membres du bureau, les 500 députés, vous nous avez vus sur terrain peut-être beaucoup plus activement que ça n'était dans le passé, notamment lorsqu'il y a eu la lutte ici contre le Covid ou la pandémie sur la lutte à mener sur cette maladie. Vous avez vu, si je prends un exemple de Kinshasa, Godard Motemona, Henriette Ouamou, Ados Dombasi, Ogi Kalonji, qui sont des élus de Kinshasa, et qui sont eux-mêmes allés sur terrain, sensibiliser, remettre qui du gel, qui des seaux, de manière à ce que le message passe dans la population. Ça, c'est pour Kinshasa, mais les vacances parlementaires, c'est une obligation qui nous est faite pendant les périodes où nous ne sommes pas en session, d'aller sur terrain. Et vous avez vu, nous sommes allés accompagner des députés originaires de ces provinces-là, à leur demande et à l'invitation des populations. Nous sommes allés à Beni, avant le ministre de la Défense, par exemple, ou le ministre de l'Intérieur. Nous avions été les premiers à être là après le chef de l'État. C'était un moment évidemment très poignant et qui montre toutes les limites de la restauration de l'État s'il n'y a pas des délégués sur terrain que sont les gouverneurs de province pour encadrer et répondre à nos populations. Nous sommes aussi allés, je crois que vous avez suivi nos descentes à la Mongala, qui est bien sûr ma province d'origine, mais qui est aussi souvent une province un peu oubliée en termes d'infrastructures. Nous nous sommes attaqués au problème de l'érosion à Lissala, qui sont un problème qui nous semblait un petit peu négligé. C'était une façon de porter l'alerte, parce que des villes entières disparaissent aujourd'hui à cause des inondations. C'est le cas où des villes entières disparaissent, où des gens sont victimes, à Kinshasa, comme à Uvira, comme à Lissala, faute de mesures et d'initiatives fortes. Alors nous sommes un peu, le Parlement, c'est un petit peu le lanceur d'alerte. Il est le lanceur d'alerte pour la population vis-à-vis des gouvernants. Et donc c'est ça que nous appelons être dans la proximité et changer un petit peu la façon de faire. On n'est pas là que pour citer des articles de la Constitution, pour lire des lois en français que peut-être les non-juristes ne comprennent pas. Nous sommes là aussi pour dire, là, voilà, on a regardé, on est allé sur terrain comme porte-parole du peuple, comme voix des sans-voix. On a l'impression qu'il y a un problème ici et que le gouvernement devrait accélérer par la réponse qu'il peut apporter.
Mais seulement, madame, certains députés vous accusent d'avoir bloqué toute procédure de contrôle et étouffé même le débat au sein de l'Assemblée nationale. Comment réagissez-vous?
Bon, c'est difficile que des députés accusent, je pense pas. Je n'aimerais pas dire accuse parce que ça a toujours quelque chose de négatif.
Oui.
Je pense que certains députés aimeraient avoir plus de temps de parole, c'est tout à fait normal. Mais il faut savoir que même à l'Assemblée nationale, c'est pas le Parlement debout ici. C'est malheureusement ou heureusement un Parlement qui a des traditions qui sont les mêmes que tous les parlements dans le monde. On a un règlement intérieur. Et la prise de parole, elle se fait un certain nombre d'allocations de minutes en fonction du poids politique de chaque parti au sein de l'Assemblée nationale. Encore que dernièrement, je crois, lorsqu'il y avait eu le programme du gouvernement ou le vote du budget du gouvernement, l'opposition avait demandé un plus grand temps de minutes, et je me réfère à une demande de l'honorable Lenga du MLC,
oui.
Et nous avions dérogé à la règle de minutes strictes, et nous avions rajouté un temps de parole plus long. Mais cela étant, ce sont les règlements que nous avons trouvés, c'est pas moi qui fais les règles, je les ai trouvés et on essaye de les respecter. Donc je crois que là, je comprends la volonté de certains de mes collègues de parler beaucoup, parce que parlementaire, c'est ce que ça implique, mais il faut malgré tout tenir compte de ce qui est prévu par les règles. Alors à côté de ça, est-ce qu'on a étouffé le contrôle parlementaire? Pas du tout. Je crois que vous avez suivi, c'est grâce à nos députés qui sont allés sur terrain qu'on parle aujourd'hui de l'affaire des sauts de moutons.
Ouais.
Et donc si nous bloquions ces initiatives-là, étant d'une coalition FCC-CACH, j'aurais pu dire non, n'y allez pas. Mais je crois que vous avez vu que dans notre coalition, que ce soit FCC, que ce soit CACH, tous nos députés se sont mobilisés les premiers pour dire il y a quelque chose qui ne va pas. Et de nouveau, c'était les élus de Kinshasa, et ils ne peuvent le faire qu'avec notre soutien et notre autorisation. Donc je ne crois pas qu'on bloque les contrôles parlementaires, mais il faut éviter des contrôles parlementaires sensationnels ou théâtraux. La valeur d'un député, c'est pas toutes les dénonciations qu'il fait sans contrôle. Il faut que ça se base quand même sur une procédure de contrôle parlementaire. Alors le contrôle aussi, ça se base sur l'activité du gouvernement. Le gouvernement a commencé en septembre 2019. En septembre 2019, il nous a présenté un programme du gouvernement et un budget. Nous nous sommes attelés à ça dans cette session-là. Et cette session s'est terminée en décembre. De décembre à mars, nous étions en vacances parlementaires. Donc il n'y a pas moyen de tenir des activités de contrôle dans la période de non-session. Enfin, en mars, nous sommes revenus. Nous sommes tombés sur le Covid. Et donc ça veut bien dire que la bonne volonté est là, mais il y a quand même des temps parlementaires que nous devons respecter. les périodes d'activité, les périodes de non-activité. Mais je crois que dans, vous l'avez suivi ce matin lorsque nous avons repris nos activités parlementaires, le point du contrôle parlementaire est un point important.
Justement, madame, le travail du Parlement se trouve heurté depuis la rentrée de cette session suite à la pandémie au coronavirus. Que faites-vous déjà en tant que Parlement pour faire face à cette pandémie?
Bon, déjà là, la première réponse, c'est qu'on vient d'accompagner l'initiative du chef de l'État qui avait déclaré les mesures d'urgence en prorogeant à sa demande et suivant notre conviction de député les mesures d'urgence ou l'état d'urgence, je dirais. Donc ça, c'est un exemple qui est d'actualité et qu'on ne peut pas taire sous silence. Mais à côté de ça, effectivement, nous avons organisé des sensibilisations à l'interne, à l'Assemblée nationale. Les premières sensibilisations, je crois que nous étions les premiers à ouvrir nos portes au docteur Mouyembe pour qu'il parle de la maladie Covid-19. Des suites de ça aussi, nous avons suspendu nos plénières en date du 18 mars pendant une quinzaine de jours. Et de facto, au rythme ralenti depuis l'état d'urgence annoncé par son Excellence Monsieur le Président de la République, parce que nous pensions qu'effectivement, il fallait respecter les mesures barrières. Alors voilà, nous avons un plan Covid-19 médical que nous sommes en train de concevoir pour assurer la sécurité et la santé et de nos élus et de notre administration. Et je crois que c'est autour de ça que nous travaillons. Alors c'est vrai que c'est quelque chose qui a surpris tout le monde et donc on n'est pas toujours préparé de la meilleure façon par rapport au Covid-19. Mais je crois que les mesures barrières habituelles, prise de température, lavage des mains, port du masque, si on n'a pas le lavage des mains, recours au gel hydroalcoolique, c'est quand même les premiers gestes de base. Alors à côté de ça, il y a aussi un clip vidéo que l'Assemblée nationale a fait, tous les membres du bureau, dans toutes les langues, de manière justement à ce que ça puisse toucher dans tout le pays. Parce qu'il ne suffit pas juste de déclarer avec des lois, mais il faut expliquer et faire preuve de pédagogie. Donc je crois que c'est ça qui nous occupe. Alors bien sûr, on s'inspire aussi des recettes ou des exemples qu'on a vus dans d'autres pays. Les pays qui réussissent apparemment à lutter contre le Covid aujourd'hui sont plutôt en Asie. Ils n'ont pas toujours utilisé le confinement. Les réponses sont variables. Et nous, nous essayons en tout cas avec les pays d'Asie ou les pays émergents qui ont déjà apporté une expertise sérieuse dans ce domaine, nous essayons dans le cadre de la diplomatie parlementaire de comprendre ce qu'on peut faire. Alors par exemple, nous avons parlé avec Cuba. Parce que Cuba a une grosse expérience médicale dans le combat contre les épidémies et pourrait peut-être apporter un soutien ou faire profiter de son expérience la République démocratique du Congo. Mais donc, cette lutte contre le Covid est vraiment une priorité des priorités.
Radio Okapi. Grande interview.
Alors, madame, justement, vous venez d'approuver la prorogation de l'état d'urgence, mais la plénière était sous un format réduit pour respecter les mesures sanitaires. Mais seulement certains députés non conviés à cette plénière estiment que c'est une violation de l'article 121 de la Constitution et des 6 articles du règlement intérieur. Qu'en dites-vous?
Bon, je crois que, vous savez, ces jours-ci, on a vu plein de juristes fleurir tantôt sur la Constitution, tantôt sur le règlement intérieur. Moi, je crois que les décisions que nous prenons, nous ne les prenons pas au niveau du bureau de façon unilatérale. Ce qui nous régit ici, c'est la conférence des présidents. Nous avons eu une réunion hier. Nous avons regardé le rapport médical qui nous est venu, en tout cas le rapport sanitaire qui nous est venu de l'INRB. Alors, on a le choix. Soit on respecte des règlements et on fait venir plus de 251 députés dans la salle. Or, est-ce qu'aujourd'hui, selon vous, on peut faire venir plus de 251 députés dans la salle? Vous êtes ici avec moi à Kinshasa. Y a-t-il encore des rassemblements de plus de 200 personnes dans la ville?
Non.
Non. Alors, nous sommes la voix du peuple et un exemple pour les citoyens. Est-ce que ce serait un bon exemple pour les citoyens que pendant que tout le monde fait des efforts et des sacrifices pour lutter contre le Covid en évitant les attroupements ou en tout cas en essayant le plus possible de réduire la fréquentation et la proximité populaire, est-ce que ce serait raisonnable que nous invitions 250 personnes? Je ne pense pas.
C'est difficile.
C'est difficile. Et donc, je crois que ici, si on dit qu'on lutte contre le Covid, la priorité, c'est ça. C'est un fait de force majeure. On peut utiliser tous les règlements du monde, mais la force majeure est aussi un concept de droit qui dit que dans des circonstances exceptionnelles, il faut des mesures exceptionnelles. Dans ce sens-là, nous ne sommes pas les seuls. Vous avez vu, le Parlement britannique a repris ses activités, mais c'est 50 personnes, 25 d'un côté, 25 de l'autre. Le Parlement français a reçu des lois de son gouvernement en format réduit, et je peux multiplier les exemples. Alors, pourquoi la RDC voudrait se singulariser en ayant un Parlement qui, peut-être, par des attroupements non conformes à l'avis sanitaire du comité de riposte, pourrait susciter des questions?
Mais en même temps, madame, au cours de la conférence des présidents mercredi, vous aviez adopté un avant-projet du calendrier, ce qui veut dire que vous envisagez continuer à fonctionner malgré l'état d'urgence. Mais comment vous allez faire? Quelles sont les dispositions pratiques que vous comptez mettre en place pour que l'Assemblée nationale continue à fonctionner sans pouvoir exposer les députés à la contamination?
Mais je crois que justement, c'est le vrai sujet, et au moins là, on s'inspire de ce qui s'est fait ailleurs. D'abord, tout Parlement fonctionne. Ce n'est pas parce qu'il y a l'état d'urgence. Il y a l'état d'urgence dans 83 pays, ce n'est pas parce qu'il y a l'état d'urgence qu'on congédie toutes les institutions. Les institutions doivent fonctionner et travailler. Imaginez qu'il y ait un accord de don d'un partenaire international, un don qui est fait à la RDC pour lutter contre le Covid. Je donne l'exemple des dons de la Banque mondiale. Et le gouvernement nous envoie cet accord de don pour ratification. On ne peut pas dire non, toutes les institutions ont mis la clé sous la porte et on attendra dans 6 mois que tout se passe. Et donc, on doit fonctionner normalement. On doit avoir nos activités parlementaires, je dirais classiques, contrôle et production législative, mais dans le respect des mesures sanitaires du Covid. Et concrètement, vous l'avez vu aujourd'hui, on a réduit le nombre de députés dans les salles, on a laissé les salles ouvertes pour que l'aération puisse circuler. En tout cas, on essaie de suivre le plus possible les dispositions sanitaires qui ont été demandées. Pour le futur, nous continuerons à avoir nos activités parlementaires. Le Premier ministre et son gouvernement fonctionnent tous les jours. Mmh. Vous les voyez à la télévision. Le ministre de l'Intérieur est allé avec plus de 90 personnes, je crois, suivre les questions de sécurité dans le Haut-Katanga. Donc l'État doit fonctionner parce que nous devons répondre aux questions ou aux problèmes de nos populations. Mais nous devons le faire de façon responsable, en tenant compte des mesures de riposte édictées par le comité de riposte et sous l'autorité du gouvernement et du chef de l'État. C'est ce que nous faisons. La solution à terme, c'est d'arriver à avoir des téléconférences où tous les députés pourront être présents et pourront donner leur contribution et leur rapport. Alors, nous sommes dans cette démarche-là, mais évidemment, la technique a ses contraintes et je crois que nous serons prêts d'ici peut-être une dizaine de jours.
Ok. Alors, quelle valeur accordez-vous aux décisions qui seront prises par le Parlement en téléconférence? Parce que dans les règlements intérieurs, sinon, à ma connaissance, les règlements ne prévoient pas des plénières en téléconférence. Est-ce que vous envisagez modifier le règlement intérieur?
Alors, moi, j'aimerais pas que notre entretien ne soit basé que sur des règlements intérieurs de l'Assemblée nationale. Je ne sais pas si c'est ça qui intéresse les Congolais. Le Congolais, lui, il se demande comment il va entrer dans un taxi. Ce taxi-là, est-ce qu'ils seront à 4 ou est-ce qu'on va respecter les mesures du gouverneur de la ville de distanciation? Le Congolais, il s'intéresse à est-ce que le Parlement va m'aider à comprendre si je dois être vacciné, est-ce que ce vaccin, on va l'accepter ou pas? Ça a suscité beaucoup de débats. Donc, je ne voudrais pas entrer dans une discussion vraiment de puriste, parce qu'aujourd'hui, tout le monde s'improvise juriste et tout le monde connaît notre règlement intérieur mieux que nous. Les règlements intérieurs, ils sont faits pour des circonstances classiques. Oui. Nous sommes dans une circonstance exceptionnelle. On a évoqué la question de modification du règlement intérieur. Je ne sais pas si c'est un sujet qui vraiment amuse beaucoup les Congolais, parce que la modification du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, c'est vraiment très technique et c'est très marginal par rapport à l'angoisse et par rapport au besoin de savoir des Congolais au travers peut-être plutôt des missions d'assistance que nous faisons sur terrain ou des missions de contrôle.
Radio Okapi. Grande interview.
Justement, madame, comme vous venez de le dire, les Congolais veulent voir des actions concrètes et des mesures concrètes qui touchent à leur quotidien. Mais seulement, nous avons constaté que depuis le dernier débat de la Chambre basse autour des mesures prises par les chefs de l'État, il y a une certaine méfiance
au niveau des institutions. On l'entend dans les médias, parfois certaines déclarations des uns et des autres, qui ne met pas vraiment la population en sécurité lorsqu'on constate que les institutions qui devraient leur assurer de la sécurité sont presque en contradiction. Comment voyez-vous cette situation?
Alors vous dites bien des uns et des autres dans les médias, mais les institutions s'expriment aussi par leurs acteurs légitimes et officiels. Ouais. Il est tout à fait normal dans la démocratie que chacun ait des avis différents. Avoir des avis différents, c'est la mesure et c'est le test de la vitalité de la démocratie. Ça ne veut pas dire pour autant que les gens sont des ennemis personnels. Donc là, je crois qu'il faut que les gens fassent un petit peu attention.
Ouais.
Le Congolais aussi aime beaucoup le débat et la polémique. Donc même s'il n'y avait pas de polémique, le Congolais allait inventer une polémique.
Justement.
Vous voyez, parfois, je n'ai pas dit certaines choses, ou peut-être la présidence ou le gouvernement n'a pas dit certaines choses, mais nous sommes tous surpris de lire dans les réseaux sociaux que nous sommes en confrontation sur telle ou telle chose. Je crois qu'aujourd'hui, ce n'est vraiment pas l'enjeu. L'enjeu aujourd'hui, ce n'est pas qui a dit ou fait quoi, ou qui pense ceci ou cela. Y a-t-il méfiance, pas méfiance? Non, je crois que l'enjeu, c'est d'abord de venir à bout de cette maladie et protéger nos populations. Les populations ne nous ont pas désignés, choisis, élus, ça dépend des mandats et de l'institution concernée, pour qu'on se donne en spectacle dans des disputes à tout moment. Mais cela étant, il est tout à fait normal que les gens ne soient pas comme des frères siamois, même si c'est une coalition, et il est tout à fait normal qu'on n'ait pas toujours le même point de vue. Et quand on n'a pas le même point de vue, on s'explique, on se parle, et on essaye de trouver des solutions. Alors, je pense aussi qu'il faut éviter cette histoire où on veut donner l'impression qu'une coalition, qu'HFCC, les problèmes ne se passent qu'à l'intérieur de ça. Non, le Congo, ce n'est pas une coalition. Le Congo, c'est 26 provinces, c'est 146 territoires, et des millions de kilomètres carrés, où habitent 80 millions de
Congolais.
Nous, on nous a donné que des mandats temporaires pour porter les préoccupations, en tout cas au niveau de l'Assemblée nationale, de ces Congolais qui nous ont élus. Et donc, il faut peut-être plus s'occuper de ça que de, à mon avis, toujours insister peut-être un peu trop, parce que ça fait vendre sur des possibilités de confrontation entre les uns et les autres. Mais seulement, il est tout à fait normal que chacun ait son identité politique et que parfois, sur certaines visions, il y ait des divergences à aplanir. Ce n'est pas pour autant que c'est un drame et qu'il faut, je crois, exacerber ou insister trop sur le côté polémique. Il y a aussi des choses qui fonctionnent. Et qui sont le fait justement de ce partenariat. Les populations, par leur vote, ont choisi un format inédit de gouvernance avec un président de la République et qui a une majorité à l'Assemblée nationale et au Sénat dans le cadre d'une coalition. Bon, c'est le temps d'aujourd'hui. Il y a quelques années, nous étions dans le 1+4. Tout le monde nous avait dit que le 1+4 ne marcherait pas, mais le 1+4 a marché, il a donné la constitution de 2006. Et donc aujourd'hui, c'est un nouveau temps politique. Il est normal qu'il y ait peut-être un galop, un rythme de démarrage qui est parfois émaillé de points de vue différents, mais je crois qu'il ne faut pas dramatiser non plus.
Alors la toute dernière question, madame. L'ordonnance du chef de l'État a fait une dérogation autorisant au Parlement de se réunir pour uniquement voter l'état d'urgence. Mais en même temps, vous venez de le dire, il y a des accords de financement qui devraient être ratifiés d'abord avant d'être financés. Il y a en fait beaucoup d'autres urgences importantes pour la population. Mais est-ce que le fait d'envisager se réunir, bien qu'en format réduit, ne serait pas une autre façon d'entrer en contradiction avec l'ordonnance du chef de l'État?
Non, moi je ne vais pas revenir sur ce débat-là parce que les textes parlent d'eux-mêmes. En posant la question, c'est comme si vous voulez nous opposer ou au gouvernement ou au chef de l'État. Je rappelle quand même que tous ces textes sont faits par une commission des lois. C'est un gouvernement. Dans ce gouvernement, il y a des ministres qui ont... certains sont de Cash, d'autres sont du FCC. La commission des lois est présidée par le vice-premier de la justice qui transmet au premier ministre, qui lui transmet au chef de l'État. L'ordonnance est contresignée par le Premier ministre. Donc, va-t-on encore entrer dans ce débat-là? Moi, je crois que c'est un débat dépassé, mais une chose est sûre, nous, aujourd'hui, nous n'avons pas que exécuté, comme vous voulez le présenter, un ordre qui serait venu du chef de l'État. Ce serait présenter une très mauvaise image de la démocratie congolaise. Ce serait peut-être ajouter à un texte que le chef de l'État nous a envoyé, qui est la production de ses services aussi au départ. Et notre travail, justement, comme parlementaire, c'est être garant des textes et se rassurer quand nous faisons notre travail que nous ramenons les uns et les autres au respect des textes. Il n'y a aucun texte dans ce pays, je crois, et ce n'est pas ce qui a été dit par le gouvernement qui nous a envoyé cette ordonnance, il n'y a aucun texte de ce pays qui dit que pour que les parlementaires puissent se réunir, il faudrait une autorisation. Non, il y a séparation des pouvoirs, il y a respect de toutes les institutions entre elles, et je crois qu'il y a une volonté d'équilibre des institutions. Il ne faut pas à chaque fois ajouter, dramatiser, polémiquer, parce que finalement on ne retient de tout ça que les polémiques. On a l'impression que dès qu'une institution sort un document, que ce soit Assemblée nationale, que ce soit gouvernement, peut-être présidence de la République, il y a des gens qui s'ingénient à venir regarder pour dire « oui, mais regardez, là, ça voudrait dire ceci ou cela ». Et finalement, même quand on n'a pas parlé, on vous fait parler. Et on vous fait parler dans le sens de polémique qui peut-être, par un dialogue institutionnel rapproché, n'existerait pas. Donc moi, je ne veux pas entrer dans cette polémique. Je crois que les députés se sont exprimés sur ce sujet. J'apporte beaucoup de valeur à ce que les députés ont dit par rapport à ça. Nous, nous sommes guidés par les principes de séparation des pouvoirs, les principes de consolidation et respect de notre démocratie, héritage que nous avons trouvé ici, des suites d'une constitution de 2006, qui elle-même venait d'une transition du 1 plus 4 de 2001, je crois, et je ne vais pas remonter jusqu'à plus loin. Aujourd'hui, nous sommes le 23 avril 2020, demain, nous serons le 24 avril 2020. Plusieurs années après la déclaration faite par le président Mobutu, présenté dictateur, comme jour ou journée, en tout cas, du multipartisme. Ça doit nous inspirer, on doit être humble par rapport à cette ouverture qui avait été faite le 24 avril 90, je pense, et se dire que nous, de la nouvelle génération, on va faire un peu mieux, on va faire un peu plus, on va aller un peu plus loin. Et pour ça, il faut respecter les textes qu'on nous a donnés dans la Constitution, et ces textes-là parlent de séparation des pouvoirs, de respect de la démocratie, de liberté d'expression des Congolais. Donc je ne voudrais pas que ce soit toujours un débat entre l'Assemblée nationale et les autres institutions de la République et qu'on personnalise à outrance. Donc qu'on essaye peut-être de rester serein, qu'on essaye de rester objectif et qu'on laisse les députés faire ce pourquoi la loi les a amenés ici, voter des lois, exercer le contrôle parlementaire. Et bon, notre travail ne nous demande pas d'être ou méchant ou gentil, mais il nous demande d'être objectif pour s'assurer que ce qui a été promis aux Congolais, les services qui sont dispensés par l'État, le sont faits d'une façon, je dirais, responsable, de manière à permettre que tous les Congolais s'épanouissent en RDC.
Merci beaucoup, madame.
Fin des grandes interviews sur Radio Okapi. Cette émission vous a été préparée avec le concours de Kéline Kouté sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Michel Kifindangoy vous l'a présenté. Merci de rester fidèle à Radio Okapi. Au revoir.